Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. La Coupe d'Afrique des Nations est de retour après la 32e édition au Cameroun il y a de cela 2 ans. C'est parti pour un mois de compétition footballistique africaine en Côte d'Ivoire, du sport mais aussi du business. La portée économique de la CAN, ce sera l'un des principaux sujets de Coémergence. Vous aurez les détails dans un instant, ce sera dans les échos de la semaine. Et nous resterons en Côte d'Ivoire pour justement parler de l'évolution d'un secteur qui a probablement bénéficié de l'organisation de cet événement. Il s'agit du secteur immobilier. Comment y évolue-t-il? Philippe Eponon, le président de l'organisation patronale ivoirienne dans l'immobilier, le BTP, sera notre invité. Tels sont les principaux sujets de Coémergence. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Je vous le disais à l'instant, c'est parti pour la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Après l'édition précédente au Cameroun il y a de cela 2 ans, 24 équipes africaines se retrouvent en Côte d'Ivoire pour un mois de compétition footballistique africaine. Du sport, mais aussi du business, la portée économique de la CAN, nous en parlons avec le journaliste sportif Hervé Kouamo que je vous propose d'écouter, notamment sur les retombées en termes d'infrastructure de cette CAN en Côte d'Ivoire.
Là, la Côte d'Ivoire a fait de gros efforts, on le voit, en termes d'infrastructure. Il y a le renouvellement du parc qui existait déjà et puis la construction de nouveaux équipements. On verra à peu près comment la pelouse du stade Alassane Ouattara va fonctionner parce que c'est vrai que les dernières images n'étaient pas rassurantes, mais il y a du travail dessus. Après, on voit bien que sur le plan des infrastructures hôtelières, on va terminer les peintures de certains établissements au dernier moment. Mais je pense que la Côte d'Ivoire fait de gros efforts. Et vous savez quelle est mon opinion là-dessus, c'est que la Coupe d'Afrique des Nations est un peu disproportionnée en termes de normes par rapport au pays qui l'organise, parce qu'il y a des très grandes infrastructures avec de grosses capacités qui ne sont remplies que à la limite pendant la Coupe d'Afrique des Nations et qui sont difficiles ensuite à maintenir. Mais on voit bien que la Côte d'Ivoire a fait de cette compétition un élément déterminant de sa communication internationale. Donc la Côte d'Ivoire semble être prête et je pense que, comme je disais, jusqu'au dernier moment, il y aura du travail et ce sera prêt et on aura une belle compétition.
On espère donc que l'organisation sera à la hauteur. Alors, autre fait qui ne manque pas de marquer, c'est le nombre ou l'intérêt suscité par cette 33e édition de la CAN, à savoir, on parle de plus de 5000 demandes d'accréditation de la part des médias. Ça semble être quand même quelque chose d'historique.
Oui, c'est vrai que la CAF l'a communiqué, c'est un nombre maximum d'un nombre record de demandes d'accréditation. Il faut dire qu'il y a plusieurs effets qui concourent à ça. Le premier, c'est que le nombre de pays qui participent est de plus en plus important, 24. Et cette année, il n'y a pas de gros pays qui soient absents. On a des joueurs aujourd'hui qui ont une dimension, on a des joueurs aujourd'hui à dimension internationale entre les grosses stars, qui sont un peu moins nombreuses qu'en début des années 2000, mais qui sont quand même là et des joueurs qui ont une assise locale puisque nous avons, comme je disais, beaucoup de binationaux. Et enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a une multiplication des médias aujourd'hui parce que entre les médias sociaux, la démultiplication des médias permise par le numérique, on a de nombreux intervenants qui arrivent. Mais effectivement, sur le continent, c'est quand même une très grosse, c'est notre compétition majeure, c'est notre Coupe du Monde à nous, Africains. Et puis aujourd'hui, on voit qu'il y a des demandes d'autres régions du monde parce que le foot s'internationalise et tout le monde est en demande.
Merci à vous, Hervé Kouamo. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif. Vous nous parliez donc à l'occasion de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, dont le coup d'envoi est donné en Côte d'Ivoire.
Coémergence, l'invité.
Direction la Côte d'Ivoire pour retrouver Philippe Eponon. Philippe Eponon est le président du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, le GIBTP. Avec lui, nous allons parler de l'évolution du secteur immobilier dans la première puissance économique de l'espace UEMOA. Philippe Eponon est en direct avec nous depuis Abidjan. Bonjour à vous, Philippe Eponon, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, Monsieur Baldé. C'est tout un plaisir et un honneur pour moi de partager avec vous mon sentiment sur l'évolution de l'immobilier en Côte d'Ivoire.
Exactement, c'est partagé. Alors, justement, comment va le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire?
Écoutez, le secteur d'immobilier va, je dirais, globalement bien. Toute la Côte d'Ivoire est en construction au jour d'aujourd'hui. Mais en fait, la lecture va dépendre de l'angle sous lequel chacun des opérateurs, chacun des acteurs regarde. Et dans l'immobilier, il y a les aménageurs, il y a les promoteurs, il y a les acquéreurs, il y a l'État, il y a les banques. Et donc chacun de sa fenêtre doit avoir donc une lecture donc de l'évolution de l'immobilier. Mais globalement, tout va très bien. En tout cas en Côte d'Ivoire pour l'immobilier, chacun des acteurs essaie de faire au mieux ce qu'il peut pour que tout fonctionne pour le meilleur, pour aussi bien les acquéreurs, pour l'État et pour l'entrepreneur lui-même que nous sommes. Sinon, du point de vue du promoteur, il faut dire que c'est un peu mitigé pour les promoteurs locaux. Les locaux, très motivés certes, mais manquent en général de ressources. Pour les internationaux, c'est beaucoup plus, je dirais, peut-être je dirais pas aisé, mais c'est un peu plus facile parce qu'ils disposent déjà de ressources. Pour les acquéreurs en Côte d'Ivoire, on a en général un problème de solvabilité ou de niveau de ressources pour acquérir des biens avec le renchérissement du coût de la vie. Mais l'État fait au mieux pour essayer de faire monter un peu, de faire baisser les coûts de production. Et donc, les moyens nantis, c'est un peu plus compliqué. Pour l'État, par exemple, l'État fait donc valoir donc, les besoins, pour que les opérateurs que nous sommes, puissions apprécier et pour prendre des initiatives. Mais il est évident que vu la demande que l'État a, l'État ne peut pas être satisfait de la cadence de production.
D'accord. Alors, on va en parler tout à l'heure. Philippe Eponon, si vous permettez, je rappelle que vous êtes le président du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, le GIBTP. Alors, on va essayer d'aller point par point. Vous dites que globalement, ça va. Vous avez parlé des différents types d'acteurs qui sont présents. Justement, parlons de ces acteurs-là. Quels sont les grands acteurs ou les principaux acteurs ou tout simplement, quelle est la cartographie des acteurs qui interviennent dans le marché de l'immobilier en Côte d'Ivoire?
Alors, l'immobilier en Côte d'Ivoire a deux grandes phases. La première phase, au sortir des indépendances, on avait des gros acteurs qui étaient des sociétés d'État et qui ont logé la majorité, de la population en Côte d'Ivoire. Mais c'était donc des sociétés d'État, donc avec des subventions d'État et les coûts de production étaient beaucoup plus bas. Depuis quelques dizaines d'années, je pense que sous la pression des partenaires multilatéraux ou bilatéraux, l'État a commencé à se désengager en voulant laisser donc la main à des opérateurs privés pour pouvoir continuer l'action. Mais à côté de ça, je ne dirais pas se désengager, parce que l'État reste maître de la situation. L'État donc essaie de trouver des artifices pour que tout le monde puisse y aller. Les grands acteurs en effectif, c'est d'abord des acteurs ivoiriens en effectif, déterminés, mais peut-être pas avec beaucoup de ressources. Après, vous avez les acteurs internationaux, qui sont les grandes sociétés internationales, qui ont la surface financière pour faire de la production de masse. Et puis, vous avez des individus privés qui, sur la base de leurs propres ressources ou de la confiance que les banques leur font, qui peuvent eux aussi, qui sont eux aussi en train de faire du développement immobilier. Donc, voilà les trois grands acteurs actuels, sachant que les acteurs de sociétés d'État ont disparu, plus ou moins, puisque l'État a voulu les convertir plus ou moins en société rentable ou au moins qui s'équilibre. Voici à peu près comment ça se présente.
On sait qu'il y a des acteurs marocains présents sur place, on va en parler tout à l'heure, mais parlons aussi de ce qui intéresse peut-être d'éventuels acquéreurs. Quels sont les segments les plus en vogue ou les plus rentables actuellement en Côte d'Ivoire?
Mais il est évident que dans tous les pays du monde, le segment de luxe est le plus rentable. Mais le segment de luxe est rentable pour l'opérateur, mais il présente, je dirais pas autant d'intérêt pour l'État qui, lui, comptabilise des besoins, hein, pas donc pas autant d'intérêt pour l'État que pour le promoteur immobilier. Donc, on a donc le segment du luxe. Après vient le segment économique et après les habitats sociaux. Alors, les habitats sociaux, c'est là où il y a le plus de demandes, mais les habitats sociaux sont un peu à la traîne. Parce que quand on privatise et qu'on demande à un opérateur économique de construire des habitats sociaux, il faut des accompagnements. Et là, l'État trouve les artifices plus ou moins pour essayer d'accompagner, mais il est évident que ce n'est pas simple. Donc, et le privé et l'État se mettent ensemble pour trouver aujourd'hui le meilleur mécanisme pour financer ces logements sociaux. Mais les logements économiques et les logements de luxe, je peux dire, pour des gens qui sont intéressés, le marché est ouvert en Côte d'Ivoire et il est porteur.
Le marché donc est ouvert et porteur, mais cela nécessite bien évidemment de régler les problématiques liées au financement, justement, aussi bien pour les immobiliers, les promoteurs immobiliers que les acquéreurs. Quelles sont les équations relatives au financement qui se posent sur place?
Le financement dans l'immobilier, les deux vraies problématiques, c'est le foncier et le financement. Alors, pour les acquéreurs, je n'en connais pas beaucoup d'entre nous qui avons du cash pour payer un bien immobilier. En tout cas, tout comptant cash. Donc, on est obligé de passer par les banques. Mais les banques ont leurs règles. Et les revenus que nous avons, il y a une quantité qui n'est pas cessible. Et quand on fait l'équation, c'est généralement que la majorité de ceux qui veulent bénéficier de logement n'ont pas forcément les ressources pour payer dans les délais qui sont prévus de rembourser à une banque ou à un opérateur économique. Donc, on a des problématiques de financement sur du long terme. Et la ressource à court terme existe, les banques sont liquides, mais la ressource à long terme n'existant pas, cela donc pose un problème de disponibilité de ressources. C'est pour ça que les opérateurs internationaux, qui probablement ont d'autres mécanismes internationaux, peuvent mieux se porter que les opérateurs locaux, qui ont un peu plus de mal avec des structures financières plus petites. Mais l'État et les opérateurs travaillent aujourd'hui à trouver un mécanisme pour arranger les acquéreurs de telle sorte que même ceux qui ne sont pas tout à fait solvables dans l'immédiat puissent à terme être propriétaires de leurs biens.
En tout cas, je pense que c'est très intéressant. C'est des problématiques donc à solutionner certainement pour permettre un plus rapide développement du secteur de l'immobilier parce que la demande est là et je pense aussi que le déficit est là aussi, Philippe Epono.
Alors, le déficit est abyssal. Malheureusement, quand on écoute, parce que l'État a les besoins des populations. Quand l'État annonce les besoins des populations, on l'enregistre et c'est vrai que cela donne l'envie d'investir là-dedans. Mais comme je disais tantôt, les ressources n'étant pas illimitées pour les opérateurs, et la durée de mise à disposition des ressources étant très limitée, cela pose un problème d'engagement de l'opérateur pour pouvoir satisfaire les besoins de l'État. Il faut donc, d'une façon ou d'une autre, un mécanisme soit trouvé entre l'État et les opérateurs, mais un mécanisme qui soit acceptable par les partenaires, je dirais multilatéraux ou bilatéraux, pour que tout le monde puisse, dans un même élan de compréhension du sujet, puisse développer des habitats sociaux et économiques dans l'intérêt des populations. Parce que le taux de croissance en Afrique, et ça ce n'est pas qu'à Abidjan, c'est partout ailleurs, le taux de croissance est très élevé et le taux de production ou d'aménagement des espaces pour les populations, le taux est un peu plus bas, moins élevé que le taux de croissance des populations ou le besoin d'évolution pour combler le déficit, d'accord? Le besoin existe, mais le comblement des déficits est beaucoup plus long parce qu'on n'a pas encore trouvé le mécanisme parfait. Même s'il n'existe pas, allons vers un mécanisme qui permette d'augmenter, de doubler, de tripler les capacités de production dans l'intérêt de tous les acteurs.
Alors, une dernière question, et je l'avais évoquée tout à l'heure, la présence des acteurs marocains sur place, comment vous la jugez, mais surtout, quelle coopération est possible, car vous êtes tous des acteurs africains?
Écoutez, la coopération sud-sud est une bonne chose. Mais pour aller dans un mariage, chacun y va avec ses atouts. L'économie ivoirienne est une économie qui est tout à fait libéralisée. Et mettez-vous à la place des opérateurs qui arrivent. S'ils arrivent, ils ont les ressources, ils ont le foncier, ils ont la technologie, est-ce qu'ils ont besoin forcément d'un opérateur local pour y aller? Ça, c'est la problématique. Donc, la coopération est possible, mais qu'est-ce que nous avons à offrir, nous, les locaux? On a à offrir notre connaissance du terrain. C'est tout ce qu'on a à offrir. Qu'est-ce que ça pèse dans une coopération, même sud-sud, où l'un apporte, je dis, tout ce qui est capital, et l'autre apporte ce qui est accessoire. Si notre coopération est possible, il y a de la sous-traitance qui peut se faire, mais des fois, malheureusement, c'est des sous-traitances de dupes. Comme je dis toujours dans les travaux publics, vous pouvez sous-traiter pour 30%, mais 30%, vous allez poser des gazons, vous allez faire quoi, des bordures, vous allez faire, je ne sais pas quoi, des caniveaux. Ça ne fait pas de vous à terme un opérateur de l'immobilier. Ça ne fait pas de vous à terme un opérateur de travaux publics. Donc, c'est ça un peu la petite nuance qu'il faut relever et voir dans quelle mesure, je ne dirais pas des contraintes, mais des mécanismes peuvent être mis en place pour que les acteurs locaux puissent s'amarrer aux acteurs internationaux, de sorte qu'il y a d'abord un transfert de technologie, mais que ces acteurs locaux puissent grandir au contact de ces acteurs internationaux, et puis que dans les années qui viendront, comme tous les pays le veulent, que ce soit les acteurs locaux qui soient essentiels dans la production donc, de logements sociaux, économiques et même de haute standard.
Merci à vous, Philippe Eponon. Je rappelle que vous êtes le président du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, le GIBTP. Ce fut un plaisir de vous avoir comme invité dans Coémergence.
Merci à vous. C'est moi qui vous dis merci.
Destination Éco.
Et nous restons en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de noix de cajou et le pays souhaite relever le défi de la transformation de cette matière première. Une zone agro-industrielle a ainsi été installée dans le nord du pays. Sa mise en service s'est faite en présence de plusieurs responsables et investisseurs. Notre correspondant à Abidjan, Hippolyte Dié, y était également. Écoutons son reportage.
L'anacarde s'affirme au fil des années comme un secteur stratégique de l'agriculture ivoirienne et de l'économie nationale. En 10 années, la production annuelle de cette matière première a plus que doublé, passant de 400 000 tonnes en 2011 à plus de 1,2 million de tonnes en 2022. La noix de cajou représente actuellement le deuxième produit d'exportation agricole du pays derrière le cacao. La filière a amorcé un développement industriel avec l'implantation de plusieurs unités de transformation. Parmi celles-ci figure en bonne place la zone agro-industrielle de Korogo. D'une superficie de 22,5 hectares, cette infrastructure est aménagée au profit d'opérateurs privés désirant s'installer et comprend une plateforme d'une superficie de 17,45 hectares à repartir en 7 lots industriels d'une superficie variant entre 1,59 hectares et 2,86 hectares.
L'occupation de tous les lots par des industries permettra l'insertion professionnelle des populations riveraines et plus particulièrement des jeunes et des femmes, avec plus de 8000 emplois directs qui seront créés.
La zone agro-industrielle de Korogo propose par ailleurs une aire de séchage, trois entrepôts de stockage de 2500 mètres chacun, des aires de stationnement de camions poids lourds, dont un parking extérieur de 13 000 mètres carrés et un parking intérieur de 7 000 mètres carrés et de deux postes de pisage. La réalisation de l'infrastructure a été possible grâce à un prêt de 200 millions de dollars de la Banque mondiale au Conseil du coton de l'anacarde dans le cadre du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne des valeurs.
Ceci également permet de générer également de la valeur ajoutée pour l'économie ivoirienne en exportant maintenant des produits transformés au lieu de matières premières brutes.
Présent à la cérémonie de mise en service de cette zone agro-industrielle, le ministre d'État, ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, a exprimé sa fierté par rapport aux efforts du gouvernement visant à accroître la transformation des produits locaux.
L'aménagement de cette zone agro-industrielle dédiée à la transformation de l'anacarde va créer un cadre propice à l'installation d'unités industrielles de transformation de la noix de cajou.
Premier pays producteur de la noix de cajou, la Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour atteindre un très bon niveau de transformation. Selon les dernières statistiques de 2022, le pays a atteint un taux de transformation avoisinant les 22%.
Merci à vous, Hippolyte Dié, correspondant de Médian à Abidjan.
Zoom Express.
Et nous parlons transfert d'argent en Afrique. Et pour cela, nous recevons Mathias Léopoldi, il est cofondateur de Joulaya. C'est une application de mobile money active dans le transfert d'argent en Afrique. Parlez-nous de votre application mobile. Quel est son domaine d'activité?
Alors, nous sommes une fintech, donc financial technology. Nous adressons les besoins des entreprises qui qui veulent digitaliser leurs transactions financières. Et donc, nous leur permettons de pouvoir accéder aux nouveaux moyens de paiement que sont les portefeuilles de monnaie électronique. Avec notre application, les entreprises peuvent envoyer de l'argent sur les comptes de monnaie électronique pour payer les salariés, par exemple, qui ne seraient pas bancarisés dans la construction, la logistique, la sécurité, le transport. Et nous leur permettons aussi de digitaliser leurs espèces. Donc, au lieu d'avoir à trouver une agence bancaire qui ne sont pas beaucoup présentes dans la région, ils peuvent directement aller dans un point de mobile money pour déposer leurs espèces et digitaliser leurs transactions.
Alors, c'est intéressant justement dans cette quête d'inclusion financière en Afrique. On sait que dans beaucoup de pays du continent, le taux de bancarisation dépasse à peine les 15%. Et avec ce type, disons, d'initiative, pensez-vous réellement que vous êtes en train de favoriser l'inclusion financière? Et je fais la différence entre taux de bancarisation et l'inclusion financière, que vous savez bien évidemment.
Tout à fait. Donc, taux de bancarisation, on est à peu près 25% dans notre région, alors que l'inclusion financière, quand on prend les portefeuilles de monnaie électronique fournis par les opérateurs et les émetteurs de monnaie électronique, on peut monter, par exemple, en Côte d'Ivoire à 80%. Et il faut savoir que depuis 15 ans, c'est un Africain sur deux d'Afrique subsaharienne qui a ouvert un portefeuille de monnaie électronique. Et donc, la prochaine étape de la révolution maintenant, c'est de faire en sorte que tous les paiements du commerce, que ce soit l'encaissement des paiements à distance, la digitalisation des espèces, se fassent à travers aussi ces réseaux. Donc, il y a aujourd'hui un besoin très fort pour les moyennes, même jusqu'aux grandes entreprises, de pouvoir accéder à ces services financiers proposés par les infrastructures télécoms. Et donc, nous, c'est ce qu'on adresse. Grâce à ça, en fait, ça fait la baisse de la prévalence des espèces dans le commerce et ça permet de faire des nouveaux cas d'usage, notamment de pouvoir fournir des crédits grâce aux données transactionnelles qu'on a de la digitalisation.
Alors, donc si je vous comprends bien, aujourd'hui sur le continent, il y a des entreprises qui, au lieu de payer par virement bancaire, elles ont la possibilité de payer à travers des transferts de fonds par mobile money.
Exactement.
Cela dit, est-ce qu'il y a un intérêt par rapport à ces activités-là?
Oui, il y a un intérêt puisque, comme on le disait, les personnes qui sont payées à travers ces nouveaux moyens de paiement n'ont pas de compte bancaire. Donc, la seule façon de les payer de manière digitale, c'est à travers les portefeuilles de monnaie électronique. Donc, ça permet vraiment d'adresser, si vous prenez des cas d'usage, par exemple dans la construction, les ouvriers sur le chantier, avant, faisaient la queue pendant 4 heures, 5 heures pour pouvoir être payés et maintenant reçoivent instantanément leur salaire sur leur portefeuille de monnaie électronique qu'ils ont sur leur téléphone.
En tout cas, c'est encourageant. Alors, justement, ça permet de parler de ces entreprises et de ces startups du continent. On est dans une quête de licorne africaine. Quand on dit licorne africaine, ce sont ces entreprises, ces startups africaines capables de lever au moins $1 million, si je ne me trompe pas. Alors, où est-ce qu'on en est dans le domaine de la mobile money et des fintechs?
Tout à fait. Alors, donc, les licornes, c'est les entreprises valorisées à plus d'un milliard de dollars. Il y a peut-être deux autres expressions intéressantes. C'est les centaures, c'est les entreprises qui font plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et donc, à ce niveau, dans la fintech en Afrique, vous en avez plusieurs. À premier titre, ce sont les opérateurs téléphoniques. Si vous prenez Orange Money, MTN Money ou même Wave dans notre région, ils réalisent ce niveau de chiffre d'affaires. Et vous avez des fintech pures, typiquement en Égypte, par exemple, MNT Alan, qui est un très bon exemple, qui fournit exactement des services d'utilisation pour les petits entrepreneurs. Donc, on va dire que la fintech est vraiment le secteur privilégié pour ces tailles d'entreprise et qui sont le moteur de l'économie numérique. Donc, aujourd'hui, plus de 40% des investissements dans les startups en Afrique, Afrique subsaharienne, ça va vers les fintech. Et vous avez en fait, la moelle épinière ou l'épine dorsale de toute l'économie digitale se repose sur la fintech, donc les paiements, la digitalisation des paiements.
Est-ce que ces fintech parviennent à lever facilement des fonds?
Alors, comme je disais, c'est la majorité des investissements qui vont vers ce type d'entreprise. Maintenant, il faut savoir que depuis à peu près un an, il y a eu un certain ralentissement du montant des investissements, mais c'est un secteur qui reste très attractif pour les investissements, du fait que les opportunités en fait, économiques se situent d'abord à cette base des besoins de l'économie digitale qui permettent après de construire les systèmes de e-commerce, les systèmes de e-santé, les systèmes de e-éducation, etc.
Merci à vous, Mathias Léopoldi. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Julaya, une application de mobile money active dans le transfert d'argent en Afrique. Julaya veut dire en langue bambara commerce, une langue qui est parlée bien évidemment, dans beaucoup de pays du continent, notamment en Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Medium et je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.